Salut et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Je m'appelle Enzo Colucci et un mardi sur deux, je vais à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles nous parlent d'un tournant de sa vie. Une ambiance à la cool, comme si on se prenait un verre en terrasse, pas de leçons de morale, chacun prend ce qu'il a à prendre. C'est juste des témoignages hyper authentiques sur un sujet qui nous touche toutes et tous. Alors j'espère que tu vas kiffer. Hello, hello, et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, je suis dans les bureaux de l'Emlist avec Guillaume.
Salut Enzo, ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va super.
Trop content que tu aies accepté l'invitation, merci beaucoup.
Merci pour l'invite, ça fait plaisir.
Ah bon, on va passer une bonne petite demi-heure ensemble comme d'hab. Est-ce que, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Guillaume, tu peux te présenter rapidement ?
Ouais, je m'appelle Guillaume Houbet, je suis CEO et cofondateur de l'Emlist, une plateforme qui aide les entreprises à rentrer en contact avec leurs futurs clients. On a lancé ça début 2018, donc ça va faire 3 ans. On est 35 dans l'équipe, présent dans plus de 85 pays. On fait plus de 6 millions d'euros de revenus récurrents annuels. On a une croissance à 2 chiffres mensuels, plus de 10 000 clients dans le monde. Bref, ça grossit vite.
Ouais, gros projet.
Gros projet, ouais.
Magnifique.
Et tout ça sans lever de fonds.
Et ça sans lever. Ouais, aujourd'hui, on ne va pas parler parce qu'on l'a beaucoup entendu, ouais. Ce refus des 30 millions de dollars que vous avez fait, donc ce qui est juste énorme. Super belle histoire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, foncez sur YouTube, partout sur la chaîne de Guillaume. Très belle histoire à l'écouter. Et aujourd'hui, Guillaume, on va parler d'un autre échec. Et avant, j'aimerais que tu me donnes, toi, ta définition, ta vision de l'échec après ce que tu as pu vivre jusqu'ici.
Alors, déjà, ouais, c'est une question très philosophique, mais moi, je considère que dans la vie, il n'y a pas vraiment d'échec. Je pense qu'un échec, c'est un apprentissage avant tout, même si ça peut être un peu bullshit de dire ça, mais je le pense vraiment et foncièrement. Après un échec, je pense que la définition que je donnerais, c'est ce sentiment de solitude où tu as l'impression d'être au fond, de ne pas avoir de solution et d'être juste, vraiment seul au monde et face à tes problèmes. Ça, pour moi, c'est l'échec. C'est de ne pas avoir réussi à aller chercher de l'aide et de se dire qu'il n'y a aucune solution autour de soi.
Ouais, se mettre en boule, se morfondre et penser que sa vie, elle est totalement foirée, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement.
Alors que l'échec, ce n'est pas une fin. Clairement, on va le voir.
Ouais.
Et écoute, trop cool, Guillaume. Aujourd'hui, on va parler donc plutôt d'un échec que toi, tu as vécu. Donc, un échec entrepreneurial aussi, mais un peu au tout début de tes lancements de projet avec ton papa, donc, du coup.
Ouais.
Et c'était une boîte de t-shirts, c'est ça, que vous lanciez tous les deux ?
C'est ça, ça s'appelait Paris reste un rêve.
Paris reste un rêve, ok. Et c'est resté un rêve, du coup, pour le coup,
c'est ça ? C'est ça.
Ok. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Donc, comment le projet, vous l'aviez lancé ? C'était quoi un petit peu les conneries, entre guillemets, que tu as fait, du coup, que tu retiens aujourd'hui ?
Ouais, alors en fait, si tu veux, après mon diplôme d'ingé, je suis parti voyager un an autour du monde. Et on n'avait pas d'argent pour se payer des endroits où dormir avec mon meilleur pote. Donc en fait, on a utilisé les réseaux sociaux pour loger gratuitement un peu partout. Et en fait, pendant cette année, j'avais tellement ce sentiment de liberté que quand je suis rentré en France, je me suis dit, qu'est-ce qui va pouvoir me donner autant de liberté ? Je me suis dit que l'entrepreneuriat, c'était la meilleure voie, tu vois, à prendre. Et donc, comme j'étais nul en business ou que je n'avais jamais fait, vu que moi, là-bas, j'étais ingé, je suis parti à HEC faire du market. Et je me suis dit, sachant que c'est une école qui coûte ultra cher, il faut que j'applique tous les conseils qu'on me donne dans un business. Et donc là, j'ai commencé à réfléchir. Et comme avec mon père, on était assez proches, je me suis dit, je vais lancer un business avec lui. Donc, pour donner un peu de background, mes parents, tu vois, ils n'ont pas du tout fait d'études. Ils n'ont pas eu le bac. Ils ont grandi à la ferme. Et mon père, il est monté sur Paris parce que c'était un peu l'artiste truc. Mais bon, tu vois, c'était compliqué déjà pour ses parents. Et donc lui, il est graphiste et il savait imprimer sur des t-shirts, donc en faisant de la sérigraphie. Et du coup, on s'est dit, ok, on a commencé un petit peu à regarder ce qu'on pouvait lancer comme marque. Et en fait, j'étais tombé sur un reportage sur, tu vois, les financements de Daesh. Et en gros, je crois que ça faisait 6 à 10% des financements de Daesh, c'était le coton. Parce qu'en gros, la Syrie, c'était un des plus gros producteurs de coton au monde. Et en fait, ils continuaient de smuggler, tu vois, genre du coton entre la Turquie et pour la Turquie. En Turquie, ils faisaient les bobines. Après, c'était dispatché un peu partout dans le monde et les gens faisaient des t-shirts. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'y a aucune traçabilité du coton. Et en creusant un petit peu plus, le coton, c'est aussi un vraiment genre gros drame écologique parce que ça demande énormément d'eau. Et tu as un autre pays, j'ai oublié ce que c'était, mais où en fait, leur économie, elle tourne autour aussi du coton. Et en fait, tous les étés, les profs, les enfants et tout, on leur dit, vous arrêtez de faire ce que vous faites. Et vous allez récolter du coton, tu vois. Et du coup, je me suis dit, on va créer une marque qui sera où il y aura un coton qui sera entièrement traçable, tu vois. Donc ça, c'était le pari de base. Et on avait dit Paris reste un rêve parce que, tu vois, après les attentats, en fait, il y avait un peu ce truc de Paris, le tourisme, il avait chuté de ouf, alors que ça reste, tu vois, la plus belle ville du monde. Et après avoir voyagé un an autour du monde dans plus de 25 pays, et même si je suis parisien, donc bon, c'est un peu biaisé, mais ça reste quand même la plus belle ville du monde. Et je me suis dit, Paris, tu vois, faut que ça reste un rêve. Et donc, c'était un petit peu l'histoire derrière la marque. Donc, pour se lancer, en fait, j'avais décidé de créer une communauté qui s'appelait A Taste of Paris, où je postais tout le temps des photos de Paris. Donc les gens avaient l'impression que j'avais une vie grave stylée, alors qu'en vrai j'étais sur Insta, je prenais les hashtags qui m'intéressaient, je faisais des screenshots de photos que d'autres personnes avaient postées et je faisais que du repost, tu vois. Et donc cette communauté, elle a grossi super vite. Genre je pense qu'en un mois on avait plus de 3000 personnes qui étaient là. Et donc ce que j'ai décidé de faire en parallèle avec ça, c'est commencer à monter le site internet. Donc là déjà c'est la première erreur. C'est-à-dire que je ne me suis pas du tout renseigné sur les outils qu'il y avait. Et mon père connaissait WordPress parce que lui, c'est ce qu'il avait fait. Mais tu vois, c'était le leader un peu dans les trucs old school. Mm-hmm. Sauf qu'en vrai, on a voulu un peu tout faire nous-mêmes. On a installé un module de paiement. Donc, on a installé nous-mêmes le TPE. Donc, en gros, on est allé à la banque pour qu'ils nous donnent genre, le truc à installer sur le site. Et en gros, je me suis occupé de tout faire. Et en fait, c'était la première grosse erreur. Si tu veux lancer un site e-commerce... Prends un template existant avec un module Shopify ou un truc, tu vois, que tu peux faire en une journée. Mm-hmm. Parce que là, nous, ça nous a pris genre vraiment des semaines avant de lancer le site. Et c'était que des galères. Le site était ultra lent. J'ai essayé de passer par un freelance. En fait, on a essayé de passer par une pote de mon père qui devait lui donner, enfin, qui devait en gros lui rendre un service horrible. Donc, ne passez pas par des gens qui doivent vous rendre des services. C'est horrible en général. Genre là, la meuf, elle a fait n'importe quoi. Genre, elle nous a pourri notre WordPress. Après, du coup, j'ai dû passer par un autre freelance en Inde pour qu'il nous clean un peu le truc. Il a rajouté plein de... Bref, c'était pas du tout un développeur. Je me suis fait embobiner. Enfin, vraiment que des erreurs. Et en fait, j'étais déjà avant le lancement. Je me disais, putain, le site, le temps de chargement, il est pas assez rapide. Ça va être relou sur mobile, machin et tout. Donc, que les galères déjà tech. Et après, l'autre erreur, c'est... J'étais persuadé que quand on allait mettre le site en ligne, on allait avoir genre des centaines de commandes. Moi, dans ma tête, donc pendant 2 mois où on était en train de galérer pour construire le site et tout, et monter la communauté en parallèle, j'avais dit à mon père, mais il faut que tu taffes, tu vois. Il faut que tu mettais la pression, genre en mode, il nous faut plein de t-shirts, il nous faut plein de stocks, il faut plein de trucs, parce que quand on est live, on va faire mais des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, tu vois.
Lui, il produisait du coup, ton père.
Ouais, ouais. Okay. En plus de son taf, tu vois. Donc, okay. En gros, il a un petit atelier et dedans, il faisait ça à côté de ce qu'il fait. Et donc, ça devenait le bordel dans son atelier. C'était moi, je lui mettais la pression. En plus, j'étais vénère parce qu'il y avait le site, tu vois. Et donc, du coup, je lui disais, ouais, c'est ta... Enfin, tu vois, je lui reprochais un peu les choses alors que c'était pas du tout de sa faute, tu vois. Et donc, du coup, bah, le jour où on a lancé le site... L'idée, en fait, de la stratégie de lancement, c'était j'allais publier une vidéo dans A Taste of Paris en me disant, les gens qui adorent Paris comme ça, le fait de faire une marque qui s'appelle Paris reste un rêve, qui est un peu genre écolo, bobo, tu vois, genre stylé, quoi, ça allait passer, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que ça n'a rien rapporté du tout, ça n'a pas du tout marché. Les gens, ils s'en battaient les couilles, ce qu'ils voulaient voir, c'était des photos de petit déjeuner à Paris, c'est tout, tu vois, ou d'endroits stylés, ou de photos stylées. Et ils s'en foutaient de cette marque de t-shirt. Et donc, on a lancé, on a eu, genre, je pense, genre 6 commandes, et c'était que des potes. Et sachant que j'ai des potes qui se sont cachés, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit que c'était eux, et qu'ils l'ont fait livrer, par exemple, chez d'autres potes à eux dont je ne connaissais pas le prénom. Et donc, pendant un moment, je me suis dit, putain, mais attends, il y a quelques personnes quand même qui ont commandé que je connais pas. Et en fait, c'est genre quelques semaines plus tard où bah justement, il y avait une meuf à l'époque que je voyais, mais bon, c'était juste... Enfin, bon, voilà. et du coup, elle est arrivée avec un t-shirt « Paris reste un rêve ». Et en fait, elle me dit « Voilà, je voulais te faire la surprise, mais je voulais soutenir le projet, nanana. » Donc, mignon, tu vois. Mais en vrai, moi, ça faisait 2 semaines que je me disais « Putain, mais c'est qui cette personne qui a commandé ? Il faut que je retrouve, il faut que je sache pourquoi, comment est-ce qu'il a entendu parler de nous et tout ?» Et en fait, là, c'était vraiment ce truc de « On a fait le lancement. » On n'a pas eu autant de ventes parce que moi, l'objectif, c'était clair, quoi. On fait un lancement, c'est la folie. Mmh. Et après, c'est du bouche à oreille et tous les jours, tu as des commandes et c'est parti, quoi. Sauf qu'en fait, le plan, c'est on a lancé. Ça n'a pas du tout été la folie. Et là, en fait, tu te retrouves genre merde, quoi. C'est quoi la suite ? Parce qu'on n'a pas d'argent à investir. On n'a pas, tu vois, pour faire de la pub ou des trucs comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais, tu vois?
Là, t'avais beaucoup dépensé, j'étais présent avec ton père, là?
Non, non, mais en fait, ça aussi, c'était une des
entre
erreurs.
Entre freelance, entre voilà, monter le site, etc. Le matos, vous l'aviez déjà, du coup?
Ouais, en fait, mon père, ouais, il avait ses cales de sérigraphie, donc ça coûtait rien. En t-shirt, on avait dépensé, avec les encres et tout, on en avait dépensé genre 1000 euros pour avoir un très gros stock de t-shirts de tote bag. Donc, c'était pas grand-chose non plus avec les encres. Enfin, même les cadres, en vrai, on les a facturés à la boîte. Et après, avec le freelance, non, c'était genre 200 balles max, un truc comme ça, tu
vois. Ok, ouais, ça va.
Et donc, en vrai, on n'avait rien dépensé. On avait dépensé, je pense, au total, on a dû dépenser 1500 balles, okay. Plus notre temps après, tu vois. Mais en gros, c'était pas énorme, mais juste, on n'avait pas d'argent, en fait. Enfin, tu vois, on n'avait pas d'argent à dépenser là-dedans. Et donc, on s'était dit, ça allait être organique, la communauté, les machins, les trucs. Et en fait, quand t'es là et tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Donc, j'ai essayé de contacter des influenceurs, des trucs comme ça, mais j'avoue qu'à l'époque, j'avais peur de contacter des gens. Donc, les influenceurs que j'ai contactés, c'était par des connaissances. Et je me disais, s'il y en a un qui le fait, ça va marcher, ça va rapporter d'autres gens. En fait, ça n'avait pas du tout marché. C'était un micro-influenceur. Donc, les gens, en plus, ça ne les intéressait pas trop. Et donc, il y avait plein de trucs. Et après, du coup, tu commences à te dire, OK, est-ce que c'est mes produits qui ne vont pas? Est-ce que c'est... Mais ça doit être le site qui est trop lent. Et tu trouves, en fait, plein d'excuses. Et là, tu te retrouves face à une montagne de problèmes. Ou en tout cas que tu crées toi-même, tu vois, parce qu'en soi, tu as des sites très lents qui vendent beaucoup et ça marche aussi si les gens kiffent ce que tu fais, tu vois. Mais en gros, voilà, j'étais là et en fait, à ce moment-là, la relation avec mon père, elle a commencé à se dégrader pas mal parce que moi, tu vois, je lui reprochais en gros le fait que on n'avait pas d'argent, tu vois, donc on ne pouvait pas investir, donc c'était un problème et c'était alors que ce n'était pas le vrai problème parce qu'il y a plein de choses que tu peux faire sans argent, mais je ne le savais pas à l'époque, tu vois. Et donc, en fait, mon propre échec et le fait que... En fait, ça, je l'ai su, je l'ai analysé bien après, tu vois, mais en gros, ce que je reprochais à mon père, c'était le fait que je l'ai laissé tomber, tu vois, parce que, en fait, si tu veux, mon père, il a sacrifié beaucoup, tu vois, pour mon frère et moi. Il a toujours eu deux jobs en même temps, en parallèle, tu vois, pour faire en sorte qu'on puisse faire les études qu'on voulait faire, enfin, qu'on manque de rien. Et après, j'ai pas eu une vie, tu vois, enfin... Pareil avec mes parents, on n'a jamais voyagé ou des trucs comme ça. C'est aussi pour ça qu'à la fin de mes études, j'avais fait genre tous les jobs possibles pour avoir assez d'argent pour payer des billets et me voyager un peu parce que j'avais toujours eu envie de le faire et j'avais jamais pu, tu vois. Et en fait, genre là, je me suis dit, putain, en fait, le seul moment où j'avais la possibilité de rendre un peu à mon père, tu vois, tout ce qu'il avait sacrifié, parce que tu vois, si on fait un business qui marche, lui aussi, il peut s'enrichir comme ça. Mais en fait, j'ai pas réussi, tu vois. Et donc, en gros... Je pense que cette haine que j'avais contre moi, je la sortais contre lui, tu vois. Donc, notre relation, elle se dégradait. Et il y a eu un moment, tu vois, où juste, on a arrêté de se voir, en fait. Tu vois, on a arrêté de se parler et tout. Alors qu'avant, on s'appelait régulièrement, on échangeait tout le temps sur des idées de business, des trucs comme ça, tu vois.
Tu vivais plus chez lui à ce moment-là, quand vous avez lancé le business?
Non, non, non. Ouais. En fait, j'étais sur le campus d'HEC.
Ok, à Julien-Josas.
Julien-Josas.
Ouais, mes grands-parents, ils sont en face.
Au milieu des champs.
T'avais quel âge du coup? T'avais 24?
Non, j'étais un peu plus âgé. Ouais, 25. 25 ans. Ouais, okay. Je crois que j'avais 25 ans. Et donc là, ouais, c'était assez difficile. Et à ce moment-là, tu vois, c'est un peu ce côté où, comme je te disais, quoi, t'es tout seul, tu sais pas quoi faire. Et là, la boîte, en fait, t'as même plus du tout envie d'en entendre parler, quoi. Mm-hmm. Donc c'est ce moment où. Et surtout qu'en fait, en parallèle, il y a un pote d'HEC qui avait lancé son agence d'acquisition et qui me dit « Guillaume, moi je suis solo, je galère un peu, est-ce que ça peut te chauffer ?» Tu vois, il me parle du projet, de tout ce qu'il veut faire. Et je lui dis « Vas-y, je suis chaud » et je commence un peu à l'aider. Et en fait, ce projet, d'un coup, commence à me booster beaucoup plus parce que, en fait, j'apprends toutes les choses qui m'ont manqué. C'est-à-dire, genre comment on fait pour trouver des clients, tu vois. Et on parle de B2B, donc là, avant, c'était on s'adresse à des consumers, donc n'importe qui au monde. Et là, on est en B2B, donc c'est des entreprises. Donc, c'est un truc que je connais pas du tout. Moi, avant ça, j'avais bossé chez Hermès et Procter & Gamble, donc vraiment des consumer brands, tu vois. Et là, je suis là et je me dis, putain, mais c'est cool, en fait. Le B2B, j'adore ça et c'est trop bien. Et on commence à, genre, je fais de la prospection, je commence à apprendre ça, je commence à closer des clients et genre des gros montants. Et je me dis, putain, mais en fait, c'est bon, quoi. Tu vois, j'ai trouvé le truc. Et à côté de ça, t'as une boîte qui est toujours créée. Donc, t'as des frais à la banque, t'as des machins, et il faut décider quoi faire, tu vois. Et à chaque fois qu'on en parle, c'est un peu une embrouille avec mon père, et c'est un peu ci, c'est un peu ça. Donc, ma solution, c'est l'autruche, tu vois. Genre, je me cache, je réponds de moins en moins, je suis... Enfin, tu vois, je vais plus au repas du dimanche avec la mama.
Ouais.
Et donc, tu vois, je dis non, j'ai trop de taf, j'ai machin, tu vois, tout ça. Et en fait, petit à petit, on commence un peu à s'éloigner avec mon père, et ça devient tendu, Et ouais, ça a mis du temps avant de retrouver la relation qu'on a actuellement et qu'on avait, quoi.
T'as mis combien de temps ?
Franchement, je pense que c'est plusieurs années parce que...
Ah ouais, putain.
Ouais, je pense que ça a mis jusqu'à ce que l'Aimlist, ça fonctionne, en fait. Donc, tu vois, il y a eu l'agence. L'agence, au final, on faisait de l'argent, mais le business model me correspondait pas trop parce que c'était pas très scalable. Ouais. Il fallait qu'on recrute beaucoup et après, mon associé, il a fait plusieurs burn-out, il a eu des problèmes dans sa famille, donc je me retrouvais à tout gérer. Et ça, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai revendu mes parts. Après, j'ai voulu lancer un projet en Russie. C'est pas passé comme je l'espérais. Et après, j'ai lancé l'Aimlist et il m'a fallu un an après l'Aimlist. Donc, je pense que la boîte de t-shirts, c'était... On l'a lancée en 2016. On a dû la fermer en 2017. J'ai lancé l'Aimlist en 2018. Et en gros, début 2019, je commençais à me payer. Et je pense qu'avec mon père, notre relation, elle a dû redevenir... vraiment genre comme avant, tu vois, dans, je dirais, en fin 2018, quand je commençais à avoir déjà plus de visibilité sur le fait que ça allait marcher et qu'on allait pouvoir se payer et vivre de ça et être plus autonome, quoi.
Du coup, pendant 2 piges, tu parles quasiment plus à ton père, tu vas plus au repas de famille et tout.
Ouais, on se parlait beaucoup moins, ça c'est sûr, on s'appelait beaucoup moins. Les fois où on se parlait pour la boîte, enfin voilà, c'est un peu un sujet qu'on a évité à un moment. Mais on sentait que ça pesait, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'on se parle, après, donc je pense qu'il a il y a un an où je commence à aller voir un petit peu plus. Après, quand je suis rentré sur Paris, je vivais directement chez ma meuf de l'époque. Donc, j'avais des excuses, entre guillemets, tu vois. Mais on passe le week-end ensemble, on va pas venir, tu vois, enfin, genre tous les week-ends. Et puis, en fait, petit à petit, et puis après, tu laisses un peu passer le truc. Et on enterre, j'essaye d'enterrer le plus possible cette histoire, quoi. Donc, en gros, j'ai même honte d'ailleurs de cet échec pendant longtemps.
Okay.
Je veux pas en parler, en fait. Parce que je pense qu'on n'a pas la culture de l'échec en France, tu vois. C'était vraiment un échec. Alors que maintenant, comme je te le disais au début du podcast, il n'y a pas vraiment d'échec, quoi. Ouais. C'est que des apprentissages. Et quand je vois, en fait, mon parcours et ce qui m'a motivé, en fait, tout s'explique, quoi. Tu vois, j'ai laissé tomber la personne qui comptait le plus pour moi. À partir de cette peine, tu vois, je me suis dit, il faut que je sois très bon en acquisition. J'ai décidé de devenir le meilleur en créant, tu vois, cette agence et en générant des millions pour les clients qu'on avait. Et après, je me suis dit, je suis prêt à lancer ma propre boîte pour me développer et aider un maximum de personnes à justement ne pas avoir à ressentir ce que j'ai ressenti, tu vois. Et donc là, je comprends, tu vois, mon why, mon pourquoi et tout, mais ça m'a mis du temps, vraiment, ça m'a mis du temps. Et même... je pense que ça, tu vois, il m'a fallu peut-être 2 ans même avec l'Aimlist pour réaliser tout ça. Ouais, ouais.
Ouais, ça t'a drivé. Cet échec, il t'a drivé, il t'a motivé. Et limite, enfin, c'est même pas limite, c'est si t'avais pas vécu cet échec avec ton père aujourd'hui, ouais, t'aurais pas l'Aimlist.
Ça serait différent. Bah ouais, ça serait différent. Ouais, c'est clair.
Donc, clairement.
Ouais.
Et là, t'avais honte de ça, putain, bah c'est trop stylé. Du coup, que t'en parles aujourd'hui comme ça, ouvertement. Mais comme tu dis, le temps après, c'est ça qui fait cicatriser aussi beaucoup.
Ouais, ça aide. Mais en fait, j'aimais pas, tu vois, parce que je trouve que quand t'as pas eu de réussite, c'est très dur de parler de ces échecs, en fait. Tu vois, si t'as que des échecs, en fait, tu vas penser que tu es un échec aussi, tu vois. Mmh. Donc, en fait, tu vas toujours avoir tendance à te rabaisser. Et moi, je me rappelle quand j'ai lancé l'Aimlist, en fait, mes proches, ce qu'ils voyaient, c'est qu'il a raté sa boîte de t-shirts, il a lancé une agence, au final, il l'a pas poussé jusqu'au bout, il a lancé un projet avec des Russes, il est parti en Russie, ça a encore merdé, et là, il lance, en même pas 2 ans, il lance son 4e projet, tu vois. Et donc, tous mes proches, c'était ça, quoi. Et après, c'était... mais t'es sûr que c'est vraiment ce que tu veux faire? On te propose des putains de postes dans des bêtes de boîte genre Hermès ou des cabinets de conseil, des trucs comme ça. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Est-ce que t'arrives toujours pas à te payer? Donc tu vois, genre t'as tes potes, quand j'étais, tu vois, début 2018, quand on lance l'Aimlist, mes potes d'HEC, ils ont tous des tafs, tu vois, donc ils sont très bien payés. Et mes potes d'ingé, ils ont aussi tous des tafs, mais eux, ils ont eu leur diplôme genre il y a 2 ans et demi, tu vois. Donc, en fait, eux, ils ont une vie posée de je viens d'avoir mon
jeune
premier
cadre dynamique.
Exactement, ouais. Le jeune cadre dynamique, c'est ça. Et toi, t'es au RSA, c'est ta meuf qui paye le loyer, tu vis dans 25 mètres carrés et t'as tes potes, à chaque fois que tu les vois, qui te posent toujours la même question, quand est-ce que tu vas te payer? T'as ta famille qui te dit, mais t'es sûr que t'as vraiment envie de faire ça? C'est le 4e projet, c'est un peu bizarre, nan. Moi, tu vois, j'arrêtais, ça faisait longtemps que je prenais pas d'argent de mes parents, donc tu vois, tu dois vivre avec 400 et quelques balles. Donc, quand t'as tes potes, tu vois, qui t'invitent au resto, bah, en fait, t'as toujours la même réponse préparée qui est de dire, j'ai déjà un dîner, je vous rejoins après. Ou quand t'es dans un bar, tu dis, Bah non, non, j'ai pas trop envie de boire ce soir, je sais pas quoi, donc tu prends qu'une bière. Mais en vrai, c'est pas que t'as pas envie de te mettre une caisse avec les potes, t'as juste pas de thunes, tu vois. Mm. Et en fait, tout ça, c'est des trucs, tu vois, que tu gardes pour toi et t'en parles pas avec les autres et c'est dur, tu vois.
T'en parlais avec ta copine de l'époque, au moins de ça, de tes doutes ?
Non.
Tu gardais tout pour toi à l'époque, ouais, tous ces doutes-là ?
Ouais, en fait, j'en parle pas parce que elle était aussi inquiète, en fait, tu vois. Donc elle me disait, mais t'es sûr que c'est la bonne décision ? Même elle, tu vois, elle me faisait un peu douter, tu vois. Donc en vrai, c'est dans ces moments-là où juste toi, tu vois, il faut que tu montres que non, t'es sûr que ça va marcher, tu vois.
Et comment tu faisais ça, clairement ? Parce qu'au quotidien, genre, pour garder cette force mentale et être résilient, même dans la difficulté comme ça, est-ce que t'avais des petits trucs qui te permettaient de rester motivé ? Je sais pas, des trucs que tu regardais, des trucs que tu faisais, du sport, autre, enfin...
Ben...
Parce que garder deux ans cette mentalité de chien qui sait qu'il va y arriver, c'est dur.
Bah en fait, le truc, c'est que pendant les deux ans, en fait, il y a eu le côté où changer de projet, je me disais, genre, quand je changeais, à chaque fois qu'il y avait un nouveau projet, j'étais persuadé, tu sais, t'as cette excitation de ouf, quoi. Je sais que c'est le bon, quoi. Et quatre mois après, et non.
Et merde.
Et là, pour l'Aimlist, en fait, c'était cool parce que très rapidement, on a eu des signaux. Donc, un, j'avais essayé de lancer des projets, tu vois, genre, j'ai toujours essayé de lancer des projets un peu tech. Enfin, entre guillemets, quoi, mais le site e-commerce, je considérais qu'il fallait, tu vois, les devs avec qui j'avais bossé, c'était des gros mythos. Avec l'agence, on avait bossé avec un dev, mais c'était aussi un gros mytho, enfin, qui était pas bon, et du coup, on savait pas qu'il était bon ou pas bon, même si mon associé me dit, mais t'inquiète, c'est un petit génie et tout. En vrai, pas du tout. Après, j'étais parti en Russie, les mecs, ils avaient l'air excellents et tout, mais en fait, je voulais faire un truc tellement compliqué que c'était impossible. Et après, là, je me retrouve avec Vianney et François, qui sont beaucoup plus âgés. Enfin, beaucoup plus... ils avaient la quarantaine, quoi, tu vois. Moi, j'avais 26 ans à l'époque. Et eux, des grosses brutes en code, quoi. Donc, déjà, je me dis, la team, founding team, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent parce que eux, ils sont deux frères.
Ils ont les compétences.
Ils codent de ouf comme des porcs et je sais qu'ils vont gérer toute cette partie qui, jusqu'à présent, à chaque fois que j'avais monté des projets, j'étais là. J'ai l'impression quand même de me faire enculer, tu vois. Genre, je sais pas comment, mais je sens un truc, tu vois. Et là, eux, confiance absolue, ils me sortent une bêta, genre en 3 semaines que je peux commencer à les vendre. Enfin, tout va ultra vite. Ils ont cette mentalité de doueur et je sens que même si on s'entend pas forcément ultra bien sur tout, au moins on avance, tu vois. Et en fait, ça, moi, ça me motive à fond. Je fais des choses manuelles que les gens n'espèrent jamais avoir quand tu achètes un logiciel. C'est-à-dire que, genre, j'onboard les clients. Je passe du temps à leur demander « Ok, c'est quoi ta cible ? Monte-moi tes campagnes, je vais t'aider à les crafter, etc. » Et en fait, pour revenir à ta question de qu'est-ce qui me motive à ce moment-là, il y avait plusieurs choses. Un, la founding team, donc mes associés, parce que je me dis « Ok, avec eux, on a vraiment une équipe solide, tu vois. » Enfin, vraiment, l'équipe, je la trouve stylée, je suis content. Deux, les clients que j'onboard, à qui genre, j'écris toutes les campagnes, donc je leur fais limite du consulting. C'est ce que je vendais, tu vois, à des milliers d'euros avant. Ben là, je le fais gratuitement. Et en fait, ils m'envoient des messages en mode bah, « Guillaume, j'ai signé mon premier contrat à 20K, ça change ma vie vu que maintenant je peux recruter une première personne dans l'agence, nanana, merci pour tes conseils et tout. » Alors que nous, on faisait zéro, hein, les mecs qui s'utilisaient en gratuit. Le gars me dit « Je viens de signer 20K, je suis là, putain, qu'est-ce qu'on a fait ?» Tu vois. Bon, même si tu doutes, tu te dis « Bon, c'est cool, j'ai fait une bonne action. » Et c'est bien, tu vois, que les gens voient la valeur du produit et continuent et te donnent des feedbacks et ça avance. Après, tu vois, en fait, il y avait plein de petits trucs comme ça. Donc, se rattacher, en fait... à des clients, à des messages. Au début, tu n'en as pas beaucoup, mais juste un. En fait, ça te motive, tu vois, pour une semaine, 10 jours, 15 jours. Et en fait, c'est ça, c'est ce truc qui dit que, bah, OK, je vais parler aux gens tous les jours. J'essaye de sortir de ma zone de confort. J'essaye de faire des choses différentes. Et après, il y a aussi ce point qui a toujours été important pour moi, c'est, au fond, est-ce que je kiffe ce que je fais, tu vois ? Et la réponse, c'était tous les jours, je me réveille et j'ai la patate, tu vois. J'ai genre 10 000 idées et je suis chaud. Et donc, en fait... même si je ne sais pas si ça va marcher ou pas, en vrai, j'ai tellement envie que ça marche et je suis tellement heureux dans ce que je fais que, tu vois, si on me pose la question, je dirais que ça va marcher, tu vois. Et il n'y a pas, même si j'ai des doutes ou quoi, bah, c'est pas grave, ma force, elle vient de mon kiff et elle vient du fait que j'adore faire ce que je fais et que la nuit, je me réveille parce que j'ai des idées et que j'ai mon tel et que j'écris, genre j'ai mes notes qui sont remplies, que je me réveille le matin avec... je me réveille toujours avant que mon réveil sonne, que j'ai la patate, enfin, tu vois, et ça... pour moi, c'est un signal tellement important qu'en vrai, même le fait de ne pas pouvoir payer des restos, tout ça, ça n'a pas d'importance, tu vois. Et donc, je suis là et je continue. Et après, j'essaye de rassurer les gens autour de moi qui sont un peu inquiets. J'ai une mère italienne, tu vois, donc de base, rassurer des gens inquiets, tu vois, c'est, c'est dans mes gènes, quoi. Et donc voilà, et non. Et puis après, évidemment, le sport pour décompresser quand il y a des trucs qui arrivent relous, ça fait du bien aussi. Ouais.
Ouais, parce qu'au final, du coup, ta solution pour essayer de t'échapper de ton taf qui n'allait pas, c'est de te mettre encore plus dans ton taf, en fait.
Ouais.
C'est ça que t'as
fait. Ouais,
c'est ça qui est ouf. C'est que le taf ne va pas, ok, bah, je vais m'y mettre 10 fois plus pour voir si ça ne va vraiment pas. Quoi.
Ouais, c'est ça. Mazo un peu.
Ouais, et t'as trouvé la lumière du coup au bout, donc c'est ouf. Et ce serait quoi, du coup, petite question un peu cliché, mais allez, si tu dois donner genre justement 3 conseils à un jeune entrepreneur qui se lance, ce serait quoi, genre ?
Alors, déjà, quand tu te lances, tu as le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que tu n'as pas l'impression d'être légitime de te lancer sur un sujet. En fait, il faut savoir que tu peux devenir expert de n'importe quel sujet en 2-3 semaines, globalement. Tu vois, si tu t'y mets à fond, le fait que tu ne connaisses pas un sujet, bah, en fait, tu vas déjà regarder la base, essayer de comprendre et tu vas avoir une vision qui est un peu différente de tout ce qui se fait. Et en 2-3 semaines, tu peux vraiment devenir expert. Donc, il ne faut pas se mettre des barrières et il ne faut pas se mettre de pression. Ça, c'est le premier point. Il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à faire des posts LinkedIn. Il ne faut pas hésiter à contacter des gens. Il ne faut pas hésiter, tu vois, à essayer de networker. Genre, vraiment, ça, c'est un truc où moi, j'ai été retenu en me disant « Bah non, contacter des gens que tu ne connais pas, c'est bizarre. Pourquoi tu le fais et tout ?» Mais en vrai, il faut le faire. Tu vas te prendre des portes, mais ce n'est pas grave. Il faut y aller. Et ces portes, en fait, elles doivent te motiver à trouver encore plus de personnes. Limite, c'est si t'as pas pris 20 portes par semaine, c'est que t'as pas assez taffé, tu vois. Et il faut y aller, il faut toujours le faire parce qu'en fait, toutes les relations que tu vas avoir, l'idée, c'est pas forcément de vendre d'ailleurs, c'est de créer des relations. Mm-hmm. Ça, c'est un truc ultra important que beaucoup de personnes oublient. C'est quand tu montes un projet, un produit, un service, tu vas être amoureux de ce que tu fais. C'est normal parce que t'es passionné. Donc le risque et que beaucoup d'entrepreneurs ont, et des erreurs qu'ils font, c'est se dire bah, « Ok, tu vois, genre, mon service est génial, il faut que tu l'achètes et je te pitche ça directement dans le message que je t'envoie. » Non, l'objectif, c'est créer une relation, essaye de comprendre qui est la personne, fais en sorte que le message soit à propos de la personne et pas du tout de ce que tu vends. Donc par exemple, tu vois, si je devais te prospecter, bah, je te dirais « Écoute, Enzo, j'ai écouté genre, ton podcast sur l'échec avec Guillaume, j'ai adoré quand tu lui as posé la question de si ça, nanana. » Déjà, boum, tu vois, c'est personnalisé, je me suis intéressé à toi. Et par exemple, ma question, c'est, j'ai envie de lancer un nouveau podcast. Je serais curieux un peu d'avoir 15 minutes de ton temps pour te poser des questions. Et en fait, si ça se trouve, tu vois, moi derrière, j'ai un logiciel qui va t'aider à te vendre toute la public distribution des podcasts et l'editing et machin et tout, ou un service qui cut les podcasts, tout ça. Et en vrai, je vais parler avec toi, je vais me poser des questions du coup pour ton podcast, comment tu fais pour l'enregistrement, quels outils tu utilises, etc. Et potentiellement après, toi, tu vas te dire, mais du coup, tu fais quoi exactement ? Donc, tu vas être curieux aussi parce que c'est normal quand on te pose des questions de répondre. Et là, toi, tu vas voir s'il y a un fit ou non. Et en fait, le fait d'avoir construit cette relation avec toi de façon honnête et sincère, bah, par la suite, forcément, tu vas te dire « Ok, bah, peut-être que toi, tu n'es pas le bon fit, mais est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé ?» Mmh. Et en fait, cet effet de réseau, tu vois, un peu comme bah, tu vois, genre une personne peut t'apporter d'autres personnes, etc. Les gens, ils n'y pensent jamais, tu vois. On ne pense jamais à ça. On se dit « bah non, ça, c'est mon prospect, il faut que je le close.
Ouais, » c'est ça.
Alors que ce n'est pas ça, tu vois. La vie, et surtout en business, c'est vraiment c'est un truc long terme, tu vois. Et donc... une personne qui est dans un job au temps T, dans 2 ans, il sera dans un autre job. Donc, toutes les relations que tu crées, elles vont avoir de la valeur à un moment, tu vois. Et moi, il y a des gens que j'ai croisés, enfin, que j'ai rencontrés et que j'ai aidés, tu vois, sur des problématiques, soit alors qu'ils utilisaient nos concurrents, tu vois. Mais je les aidais quand même parce que je m'en foutais. Enfin, ça me faisait plaisir d'aider. Je les ai aidés il y a genre 2-3 ans. Maintenant, ils ont des hauts postes dans des bêtes de boîtes. Mais les mecs, ils vont utiliser la même liste, tu vois. Et je les ai pas forcés, j'ai pas ça. Mais non, parce que, tu vois, j'ai apporté de la valeur, j'ai créé de la relation et maintenant qu'ils sont décisionnaires. Pour eux, c'est logique, tu vois. Mmh. Et ça, c'est un truc qu'on oublie trop souvent de penser long terme. Et donc, créez votre réseau. Forcez-vous, si vous lancez en tant qu'entrepreneur, à créer un réseau fort. Et un bon ratio, c'est de rencontrer 10 personnes tous les mois que vous ne connaissez pas. Donc, faites-les sortir, sortez-vous les doigts du cul. et puis, sortez de votre zone de confort, ça, c'est super important. Et n'ayez pas peur des premiers. Genre, ton premier post sur LinkedIn, il sera nul. Moi, c'était un like de ma mère, tu vois. Maintenant, je fais des posts qui font 250 000 de vues, je fais des millions de vues par mois. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois, et ça prend du temps, en fait. Tout prend du temps, mais il faut se lancer. Et il faut, en fait, on devient bon dans un domaine en s'entraînant, en fait. Il n'y a pas de secret, tu vois.
Ouais, il faut s'armer de patience et de détermination. Il faut s'en foutre du regard des autres et il faut y aller, il faut sortir les doigts, comme tu dis.
C'est ça.
Avec LinkedIn, aujourd'hui, c'est tellement facile, en fait, de rentrer en contact, comme tu dis, de manière très sincère avec des gens. Mmh. En plus, là, avec le dernier confinement, etc., on est tous chez nous, on a du temps, 15 minutes en visio, au téléphone.
C'est clair.
On te les accorde, clairement.
Ouais, c'est clair.
Trop bien. Et une autre chose, du coup, peut-être pour ce que ça me, à la base, c'était l'histoire donc, que tu nous en racontes aujourd'hui, c'est l'aventure entrepreneuriale avec ton père. Des gens qui veulent se lancer avec justement leurs parents, avec des potes, ouais, avec tu vois, des proches vraiment. C'est pareil, si tu as un conseil à leur donner, ce serait quoi?
Bah, je pense, en fait, c'est si vous voulez le faire, il faut être très bon en communication. C'est-à-dire qu'il y a plein de problèmes que j'avais avec mon père dont je n'ai pas parlé, parce que je l'ai gardé pour moi, parce que j'ai été comme ça aussi, tu vois. Moi, j'ai été éduqué, bah, toi aussi, tu as fait beaucoup de basket, mais genre, en gros, moi, mes coachs à la goutte d'or, tu vois, c'était vraiment dur, quoi. On se faisait insulter tout le temps, c'était ça. Et moi, c'est comme ça que j'ai toujours eu ma motivation, tu vois. Et donc, dans le management, c'est un peu pareil, tu vois. Genre, il fallait de la dureté, et me dire que je suis une merde, bah, en fait, ça m'a motivé pour te dire que j'en suis pas une, tu vois. Et donc, j'ai vachement fonctionné comme ça. Et donc, c'est vrai que dans mes relations, pendant très longtemps, parler de mes sentiments, parler de ce que je ressentais, etc. Mais c'était ultra difficile, voire impossible, tu vois. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est si vous vous lancez avec des proches, très rapidement, mettez en place la communication non violente. Tu vois, ça m'a mis du temps avant de l'apprendre et tout. Mais en gros, communication non violente, c'est très simple. Au lieu de reprocher à quelqu'un parce qu'il ne fait pas quelque chose ou parce qu'il le fait mal, parlez de comment vous vous ressentez quand cette personne fait une action. Un exemple très concret avec Vianney et François, donc mes deux associés actuels. Il y avait un truc où je leur envoyais des messages et j'avais pas de réponse, tu vois. Et eux, de leur côté, ils regardaient ces messages, ils faisaient ce qu'il y avait à faire. Par exemple, j'ai vu un bug sur ci, ça, ça. Eux, ben, en fait, ils allaient fixer le bug, mais ils allaient pas me dire qu'il était fixé. Du coup, moi, je pouvais pas communiquer avec les clients. Et quand ils faisaient ça, ils me disaient, bah non, mais il y avait pas de questions, machin, machin. Et moi, ça me rendait ouf, tu vois. Et donc, je leur disais, les gars, quand vous communiquez pas sur ce genre de choses, j'ai l'impression qu'en fait, vous vous en foutez des clients et de la relation client. Et qu'en gros, je suis le seul à devoir gérer tout ça, à les vérifier, nanana. Donc, tu vois, je les critique pas. Je dis juste comment moi, je me ressens. Et je leur dis, moi, j'ai l'impression d'être esselé, d'être, tu vois, avoir tout le poids de la boîte sur les épaules, de devoir gérer tout ça. Et ils me disent, bah non, nous, on est aussi motivés que ça. C'est juste que nous, bah, typiquement, une fois que c'est réglé, on l'a réglé rapidement et c'était fait, quoi, tu vois. Et là, tu vois, tu arrives à briser la glace. Tu comprends comment les gens se ressentent, eux, et comment toi, tu te ressens. Et en fait, rapidement, tu fais appel à l'empathie des gens, qui est quand même un truc un peu inné, tu vois, dans l'espèce humaine de façon générale. Et donc, par conséquent, c'est pas une critique directe, mais tu vois, c'est plus une recherche de solutions constantes, en fait. Et ça aide bien. Donc, il y a ça. Donc, faut pas hésiter à bien communiquer avec sa famille. Et après, pareil, tu vois, avec des amis, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, ouais, je conseille pas de bosser avec des amis, de trucs comme ça. Moi, je pense pas, tu vois. Je pense que ça peut très, très bien marcher.
Faut être complémentaire aussi.
Faut
beaucoup.
Être complémentaire, tu vois. Aujourd'hui, on a recruté, tu vois, dans l'équipe, la copine de Vianney. Tout le monde m'a dit, mais jamais de la vie, il faut que tu fasses ça. Enfin, t'es vraiment, enfin, c'est un truc genre, mets ton veto direct et tout. Franchement, elle était secrétaire médicale, donc aucune expérience dans le SaaS, machin, machin et tout. Mais meuf, super organisée, elle adore apprendre. Genre, quand elle est en vacances, elle se fait des formations HTML, CSS. Enfin, tu vois, genre, typiquement le genre de profil qu'on recherche, même si elle a un parcours qui n'a rien à voir avant. Et là, aujourd'hui, tu vois, ça va faire quasiment un an qu'elle est là. Ça se passe ultra bien, tu vois, il n'y a pas de problème. Et quand il y a eu des problèmes, bah, on n'a pas hésité, tu vois, à en parler, en étant cash. Bah, écoute, là, tu vois, j'ai l'impression que c'est plutôt la relation nan qui rentre en jeu sur ci, ça, ça. Mais en fait, à partir du moment où tu mets tout clairement sur la table de ce qui va se passer, comment ça va se passer et pour quelles raisons, en fait, la communication, pour moi, ça peut tout résoudre.
Sans faire de reproches, comme tu
ouais,
dis.
Ouais, c'est ça, sans faire de reproches, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est aussi de changer son mindset et d'être toujours orienté vers la solution. Tu te ressens mal parce qu'il y a ci, ça, ça qui se passe. Ok, c'est bien d'en parler. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que ça ne se reproduise plus ou que ça ne se passe pas comme ça, tu vois. Et quand tu as un petit peu cet état d'esprit-là, forcément, pour moi, tu peux vraiment réussir à régler vraiment tous les problèmes qui peuvent t'arriver, quoi. Et que ce soit avec ta famille, tes amis ou même tes associés, tu vois.
Il y a un bouquin, je crois, d'ailleurs, La communication non violente. Hein. Il y a un bouquin là-dessus. J'ai une prof de RH à l'époque qui m'avait conseillé de lire ça.
Ouais, c'est cool. Après, si t'as pas envie de te faire un livre, en vrai, il y a quelques articles qui sont cool. Mais ouais, clairement, ouais, t'as des livres dessus.
Ok. Avant qu'on passe aux questions pour la mention, j'ai une dernière question pour toi, Guillaume. Tu t'aurais dit quoi au Guillaume de l'époque, là, de 24, 25 ans, pardon? Aujourd'hui, avec le recul, tu lui dirais quoi?
Franchement, je pense que aujourd'hui, en fait, le truc, c'est que déjà, il y a plusieurs choses. C'est, je pense que, déjà, je lui aurais dit, construis ton réseau plus rapidement. Créer du contenu plus rapidement, créer une communauté plus rapidement. Ça, c'est les trucs en fait que tout le monde peut faire. Que tu sois dev, que tu sois marketeur, que tu sois CEO, biz guy ou peu importe, ta communauté, c'est des trucs que tu peux créer dès le départ et c'est un truc qui t'accompagnera tout le temps. Ça, c'est le premier truc. Je lui aurais dit aussi, documente tout. Parce que quand tu documentes, en fait, tu sais, nous, on écrit souvent des articles sur comment on a fait pour trouver notre premier client, comment on faisait pour nos 100 premiers clients, arriver à 250K, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions. Et en fait, le fait de partager tout ça et de documenter, c'est ultra bien parce que toi, ça te permet de prendre de la hauteur par rapport à tout ce que tu as fait, voir ce qui a marché, ça te fait un peu une rétrospective. Mm-hmm. Ça, c'est le seul avantage que je vois dans les boîtes qui ont... Enfin, un des seuls avantages de lever des fonds, c'est que tu as des board meetings. Donc, tous les mois, tu dois présenter à ton board ce qui a marché, ce qui n'a pas marché ou quoi ou qu'est-ce. Et ça, c'est vrai que c'est un bon exercice. Et c'est un truc que je conseille vraiment de faire parce que documenter, ça ne te demande pas en fait de... C'est déjà des trucs que tu as déjà fait en fait. Donc ça ne te demande pas de créer quelque chose, de l'inventer, tu vois. Mm-hmm. C'est juste qu'est-ce que tu as déjà fait. Et en fait, quand tu fais ça et que tu le fais sous forme d'article, blog, vlog ou peu importe, mais en fait, toi, ça te permet de prendre de la distance et surtout de te dire, mais en fait, j'étais super con là, tu vois. Genre, j'aurais pu faire les choses différemment. Et en fait, forcément, quand tu présentes, en gros, c'est pour prendre un parallèle qui fonctionne bien. Si je te dis, OK, lis cet article, tu lis l'article et après je te dis, OK, maintenant lis l'article et je vais te poser des questions. Là, d'un coup, tu vas le lire différemment l'article. Tu vois, tu vas commencer à réfléchir un petit peu à ce que tu vas faire, etc. Et maintenant, si je te dis, OK, maintenant, tu vas me faire 15 slides sur l'article que tu as lu. Ben là, d'un coup, tu vois, ça va être en fait les niveaux d'apprentissage et tes niveaux, tu vois, d'expertise sur ce sujet-là, ils vont augmenter par rapport à la production du contenu que tu vas faire. Et en fait, c'est la même chose avec le fait de documenter. Soit tu fais les choses tout le temps et en gros, t'as la tête dans le guidon, tu vois rien et t'es tout le temps genre « Ah putain, je sais pas où j'en suis, nanana. » Et il y a des moments, bah, t'auras l'impression d'être en haut de la montagne alors qu'en vrai, si tu levais la tête, bah, tu verrais que derrière toi, bah, si ça se trouve, t'as fait des trucs de ouf et que ça peut être très cool ou quoi. Mais en gros, il faut le faire parce que ça va t'aider dans ta vie de tous les jours à déjà toi te booster parce qu'il y a des moments où tu vas te dire « Bah attends, là, j'ai peut-être pas fait assez ou j'aurais dû faire les choses différemment et comment je vais faire pour améliorer tout ça ?» Et en gros, c'est un cercle vertueux et qui est surtout vraiment infini parce que toute ta vie, tu peux documenter ce que tu fais et ça apporte de la valeur aux autres. Donc ça, c'est génial. Donc ça serait les deux conseils que je donnerais. Network, documente et n'hésite pas à faire les choses. Enfin, mets-toi des coups de pied au cul.
Ok, trop cool. Bah parfait, Guillaume. Merci pour cette petite interview. On passe à la suite tout de suite aux questions pour la mention.
Ouais, ça roule.
Questions pour la mention.
Première question, du coup, Guillaume, c'est quoi pour toi les trois plus grandes vertus à avoir dans la vie?
Alors, trois plus grandes vertus, je les ai notées. Curiosité, altruisme et persévérance. Curiosité pour moi parce que à partir du moment où tu arrêtes d'apprendre dans la vie, c'est que t'es mort, tu vois. Enfin, je considère que t'as plus de vie, tu vois, si t'arrêtes d'apprendre. Et il faut garder un petit peu cette âme d'enfant, tu vois. Moi, les enfants, c'est trop passionnant parce qu'ils s'émerveillent de tout. Et moi, toute ma vie, j'ai envie de m'émerveiller de tout, tu vois. Dès que j'apprends un truc, je suis trop content. Enfin, tu vois, même des fois, des trucs un peu cons, genre le week-end dernier, j'ai appris à allumer un briquet avec mes pieds. J'étais trop content, tu vois. Je sais pas si ça va me servir un jour, mais en tout cas, je sais que je sais le faire, tu vois. Deuxième vertu, c'est l'altruisme. Je pense que c'est super important de toujours aider les autres. Je pense qu'on a un peu ce côté où... en tout cas, moi, je sais que c'est un drive pour moi qui est énorme. C'est pas l'argent, mon drive. Pendant longtemps, je pensais que avoir gagné de l'argent, tout ça, puisque c'est vrai que quand j'étais jeune, même si j'ai manqué de rien, tu vois, il y a eu des fois où je me suis dit, bah, j'aurais kiffé avoir des habits un peu plus de marque, j'aurais kiffé voyager un peu plus avec mes parents. Enfin, tu vois, tu t'attaches à des trucs un peu matériels comme ça, et je me suis dit, bah ouais, c'est ce qu'il me faut. Mais avec l'Aimlist, au début, je pensais que c'était ça qui me drivait. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, tu vois, on s'est payé un bon salaire, très bon salaire, très très bon salaire. Et en fait, en vrai, c'est pas du tout ça qui me drive. Moi, ce qui me drive, c'est aider les autres, faire en sorte que les gens grandissent, faire en sorte que les gens se développent dans la boîte, faire en sorte que nos clients aussi soient successful, qu'ils puissent avoir le même sentiment de liberté que j'ai, moi, tous les matins quand je me lève. Ça, c'est ultra important pour moi. Donc, altruisme, c'est très important. Et le dernier, c'est persévérance. Parce que t'as une citation en anglais, c'est « hard work beats talent ». Et c'est vraiment ça. Et je pense que toi qui as fait beaucoup de sport, tu dois le voir aussi. Tu as toujours des gens qui arrivent et qui sont talentueux. Et du fait qu'ils soient talentueux, ils sont feignants. Sauf qu'en vrai, toi, si tu y vas, tu es là une heure avant les autres, tu es là une heure après les autres, tu taffes beaucoup plus, tu lâches vraiment rien. Sur le long terme, tu gagneras toujours. Mais vraiment. Enfin, il n'y a pas de secret là-dessus. Tu gagneras toujours. Et ça, la persévérance, ne rien lâcher et être toujours ultra motivé par tes objectifs, je pense que c'est un truc... Qui sur le long terme fait que bah, t'arrives à devenir genre la meilleure version de toi-même, mais tout le temps en fait, et toute ta vie. Et ça, je pense que c'est une qualité qu'il faut avoir. Ouais.
Trop stylé. Valide et fort, ouais. Curiosité, altruisme, persévérance.
C'est ça.
Trop cool. Première fois qu'on a ces trois-là, je crois, comme je te disais tout à l'heure pour cette question. Très bon. Le tiercé dans l'ordre. Prochaine question. Est-ce qu'il y a un livre que tu as lu dernièrement, que tu as kiffé, ou une série, un film, un podcast?
Ouais, le livre que j'ai bien kiffé là récemment. Alors, c'est un livre d'un mec qui, à la base, je voyais un petit peu. Genre, il a créé ClickFunnels. Il s'appelle Russell Brunson. Et ClickFunnels, en gros, c'est un all-in-one outil qui te permet de lancer, si tu veux, globalement un produit en ligne. Mais en fait, son truc, c'est que sa communauté, c'est que des gens qui vendent des pilules pour mincir, des produits de sport, des machins, des trucs et tout. Et en fait, ce gars, je le méprisais un peu, tu vois, parce que par rapport à l'industrie, tu vois, c'était comme longtemps, j'ai méprisé le dropshipping, alors qu'en vrai, il y a des trucs stylés, tu vois. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter d'être cette personne qui juge les gens sans les connaître, tu vois. Donc, je me suis dit, OK, il a écrit un livre, parce que le gars, en fait, pour la petite anecdote, il fait quand même plus de 100 millions de revenus récurrents annuels. Il a la croissance genre la plus folle dans l'univers du SaaS. Et il a levé zéro, quoi. Donc, c'est un mec, il est vraiment brillant et il a craqué quelque chose dans sa façon de faire les choses et c'est totalement différent. Et donc, il a un livre qu'il a écrit qui s'appelle Expert Secret. Et en gros, il t'explique comment construire ta communauté, qu'est-ce qu'il a fait lui qui a drivé. Et il donne plein de conseils aussi sur le storytelling, comment raconter des histoires, comment structurer tout ça. Pourquoi c'est important de le faire? Parce qu'en fait, moi, j'ai eu pendant très longtemps ce côté genre no bullshit, tu vois. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Boum, je te dis exactement ce qu'on fait, côté un peu ingé, tu vois. Bah voilà, tu vois, genre c'est créé comme ça, ça fait ci, ça fait ça. Mais en fait, quand t'apprends à raconter des histoires et quand t'apprends à créer une relation vraiment émotionnelle dans ce que tu dis, bah en fait, déjà, personnellement, t'as un drive qui est beaucoup plus fort parce que t'arrives à creuser, tu vois, dans tes entrailles, savoir ce qui te motive et ce qui te drive vraiment. Et après, avec les autres, tu arrives à emporter les gens beaucoup mieux avec toi, dans ton univers, dans ton monde. Et ça, c'est pouvoir infini, quoi. Et en fait, ce livre, du coup, qui était d'une personne qui, à la base, où j'avais pas énormément de respect, en fait, pour lui. Enfin, j'avais du respect dans le sens où il avait accompli quelque chose de grand, mais j'étais pas fan de son business. Je suis pas encore fan. Enfin, tu vois, je suis pas en adéquation avec tout ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses un peu à la pyramide de Ponzi, tu vois, comme un peu, tu vas faire de l'argent sur Internet. Mais en vrai, le livre m'a appris beaucoup de choses et c'était très intéressant, donc je le recommande.
Expert Secret, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ok, très cool. Je mettrai le lien du coup. Et dernière question, c'est quoi ton prochain objectif?
Prochain objectif, moi, c'est aider 1 million d'entrepreneurs à lancer un business rentable. Et donc du coup, création de contenu, contenu inspirant. On a une série qui va sortir qui s'appelle L'Em Show, qui sera sur comment on est passé de 0 à 1 million avec Vianney et François. Donc, ça raconte nos deux premières années, toutes les embrouilles entre cofondateurs, avec énormément de stop motion dedans, un truc créatif, dynamique et tout. Et c'est une série qu'on va essayer de faire diffuser, genre par un Netflix, Canal ou quoi. Okay. Donc là, on va partir. Je lourd. Te montrerai le trailer après.
Ah ouais, lourd.
Mais c'est cool, ouais.
Ok. Putain, lourd. Très, très bon. Hâte de voir ça, du coup. Il y a un petit rituel de fin, Guillaume, avant qu'on se quitte. Est-ce que tu arrives à résumer ce qu'on s'est dit depuis, ça fait 40 minutes?
Ouais.
Est-ce que tu arrives à résumer genre tout ça en genre une phrase, genre une grosse punchline de fin?
Waouh, une punchline. Ouais, je vais dire la punchline, ça serait faites les choses que vous ne devriez ou que vous n'êtes pas censé faire et vous allez obtenir la liberté que vous avez toujours espéré avoir.
Bam.
Allez, mic drop.
On finit là-dessus, merci. Au top. Bah, franchement, merci beaucoup pour toutes ces belles anecdotes, ton histoire et ton temps, Guillaume.
C'était bah, merci hyper à toi, cool. Enzo, c'était très cool.
Merci de m'avoir fait venir dans vos super bureaux très lumineux de l'Emlist. Et puis, bah, tout le meilleur pour la suite. Hâte de voir du coup cette prochaine série qui va, je pense, envoyer du lourd. Et tout le meilleur pour toi, du coup.
Merci, Enzo. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Salut.
Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que l'épisode t'a plu et qu'il a pu t'apporter quelque chose de positif. N'hésite surtout pas à parler du podcast autour de toi parce que clairement le bouche-oreille, c'est de loin notre plus grande force. Abonne-toi à la page Instagram, Phoenix Podcast, ou à la newsletter sur le site phoenixpodcast.fr pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Tu peux également me contacter très facilement sur LinkedIn à Enzo Colucci. Et enfin, si tu l'as pas déjà fait, si tu peux juste prendre une minute pour me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff. Thank you.